Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de La Lanterne Magique, podcast des passionnés de cinéma et de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de ma nouvelle invitée. Tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Je suis Julie Maréchal. Je travaille à Sans Soleil. Je travaille dans le milieu du cinéma documentaire de manière plus générale.
Et comment es-tu venue à travailler justement pour le documentaire ? Comment est-ce que ça t'est venu plus cette partie documentaire que la fiction, l'émission plateau, ou même, je sais pas moi, le théâtre ?
Eh bien, pendant mes études, j'écoutais beaucoup les podcasts de France Culture, de documentaires sonores. Je trouvais que c'était très fort, ça me permettait de m'évader dans ma journée des fois chargée. Et de rentrer en finesse et de rencontrer des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer. C'est une rencontre à un sens parce que c'est une écoute et c'est pas, il n'y a pas de contact direct avec la personne, c'est de la radio. Mais ça permet de découvrir des milieux complètement différents et je trouvais ça très fort et très intense dans un moment réduit de pouvoir s'évader comme ça. Et du coup, c'était surtout du coup la forme documentaire que je trouvais intéressante. Après, dans le fil de mes études, je suis venue à découvrir le cinéma documentaire que j'ai également trouvé très intéressant parce que ça permettait de mettre, il y avait l'image en plus notamment. Et j'ai trouvé que c'était très fort de pouvoir
de présenter la réalité à travers le prisme d'une caméra, d'une mise en scène un petit peu, parce que le documentaire met en scène la réalité, il ne montre pas la réalité crue. L'écriture scénaristique, comme le disent certains réalisateurs, se fait pendant le tournage. Ils ne calculent pas, je dirais, à l'avance ce qu'ils vont montrer. La problématique qu'ils abordent vient au moment du tournage.
Oui, après, le réel, c'est le monde, c'est très large. Après, le réalisateur, quand il vient sur son tournage ou quand il travaille son sujet, il arrive avec un point de vue qu'il a travaillé la plupart du temps. Enfin, ça dépend des réalisateurs, ça dépend des pratiques. Mais souvent, il y a quand même une phase d'écriture et de savoir avec quel point de vue je viens capter cette réalité. Donc en effet, c'est pas le réel dans ce bloc très général, ça reste une facette et un point de vue, mais c'est un point de vue qui permet de découvrir tout un sujet particulier. Par exemple, en ce moment à Sans Soleil, on a la programmation d'un cycle qui s'appelle Habiter Hanté, et le 6 juin, on a un film qui s'appelle Ultima Sondas, qui a été réalisé par Emmanuel Piton. Et c'est un film sur l'Espagne, sur une vallée au nord de l'Espagne. Et en fait, il parle de la désertification de cette vallée, de la façon dont les habitants sont partis vers la ville. Et donc voilà, c'est un sujet, mais c'est un sujet en tant que tel. Mais lui, il filme ce sujet avec un point de vue personnel qui rend le propos intéressant, parce qu'on peut faire un reportage qui durerait 10 minutes, mais le documentaire, c'est autre chose, c'est donner des impressions, donner des textures à un point de vue et qui permet de rentrer dans une sensibilité différente sur un sujet.
Selon toi, tu serais beaucoup plus adepte d'un cinéma du réel ou d'un cinéma réaliste ? On peut des fois confondre les deux ou qu'est-ce que tu en penses de cette dichotomie, si j'ose dire.
Moi je c'est une nouvelle réflexion, mon point de vue serait
je t'ai posé une colle.
Non mais le cinéma réaliste, j'aurais tendance à m'en méfier parce que c'est, enfin, comme ce que je te disais juste à l'instant, c'est une affaire de point de vue. Donc c'est-à-dire que quand on vient filmer le réel, réaliste pour qui, quoi? Donc cinéma du réel, je trouve que ça, c'est peut-être plus large, plus Enfin, ça peut faire peut-être plus prétentieux, mais en fait, ça ouvre plus de possibilités que de dire cinéma réaliste. Après, je pense que c'est une querelle. C'est une querelle.
Et c'est une querelle de clochers, quoi.
Voilà.
C'est, comme je le disais, un peu stérile tout ça.
Mais ça permet d'ouvrir des perspectives quand même.
Et donc, quand tu as donc commencé le documentaire, tu as officié dans quel domaine?
J'ai oublié. De la même manière que j'ai découvert le documentaire par le son, j'ai d'abord eu envie de m'intéresser à la pratique sonore. Donc j'ai commencé par des formes de documentaire sonore. Après, est-ce que j'ai fait un documentaire sonore, je ne sais pas très bien, mais c'est la manière dont je trouvais que c'était le plus facile et pour créer le plus facile et peut-être par moment. Enfin, c'est plus créatif parce que comme on n'a qu'un seul média, on n'a que le son, eh bien on peut partir davantage dans l'imaginaire. Donc ça permet de plus de créativité avec de l'habillage, du mixage, d'aller prendre des sons étonnants dans la nature.
Donc en clair,
Voilà.
t'as tripatouillé l'enregistreur et puis t'es parti avec ton baluchon couvrir des sujets documentaires.
Oui, c'est moi, ça peut être moi. Oui, j'avais pas de baluchon. Je partais pas très loin de chez moi, mais oui,
Ah bah, il faut bien commencer quelque part.
peut-être.
Hein. C'est partir à l'autre bout du monde, pourquoi faire au fond? Il y a tellement de choses que l'on peut couvrir. Ah, pas très loin de chez nous, pas très loin de nous. Hein. Il suffit de regarder autour de soi, ne serait-ce que ici, au 108, à Orléans, il y a tellement d'associations qui mériteraient d'être découvertes. Et c'était un des sujets, d'ailleurs, d'une émission de la chaîne web Zotelli, c'est que pour promouvoir le 108, c'était un peu compliqué. On ne voyait pas tellement de monde, en fait. Ça a l'air parfois un peu fermé, un peu enclavé. Hein. Et t'as jamais pensé à faire un documentaire sur son soleil? Ou ça a été fait? Peut-être que ça a été fait, je sais pas.
Moi, je suis arrivée il y a un an, je sais pas très bien. Enfin, il y a des films des fois que je découvre encore, ou des histoires de films que je découvre encore. Peut-être ça a été fait. Je ne sais pas très bien. Après, des films sur des collectifs de cinéma, ça a sûrement déjà été fait, mais enfin, chaque collectif se ressemble. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Peut-être que ça pourrait être à faire.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette pratique audiovisuelle? Tu as pris effectivement par le truchement du son, tu as découvert ton amour du documentaire, mais est-ce que ça a évolué vers l'image, la post-production, ou plus loin peut-être dans le son, le bruitage, le mixage
Oui, aujourd'hui, je prends le son sur des documentaires cinéma. Je pars régulièrement au tournage. Du coup, je suis avec ma mixette, mes micros. On travaille ensemble avec une chef opératrice, avec une réalisatrice et une assistante de production. Donc, je pars régulièrement 2 semaines au Royaume-Uni pour aller filmer la nature et des personnages qui parlent de la nature. Donc voilà, c'est un film qui est en fonction des saisons, donc on y retourne régulièrement pour filmer la nature en fonction de ce qui s'y passe aux différentes saisons. Au début, moi, je me disais que, enfin, en termes d'image, ça apporte beaucoup de voir cette évolution dans le paysage, dans les paysages différents. Je me disais au son, qu'est-ce que je vais pouvoir observer de différent? Mais là, je rentre de tournage et c'est vrai que, enfin, en fait, c'était d'une évidence, mais que je n'avais pas anticipé, c'est que. On est au printemps, il y a plein de bébés animaux qui sont nés, et en fait, c'est beaucoup des oiseaux du coup que j'ai entendu là cette session quand je suis rentrée, enfin début mai. Et donc voilà, je prends
C'est une sorte de microcosmos, mais documentaire,
ça.
quoi. Enfin,
Ouais.
sonore essentiellement.
Oui. Qu'est-ce que tu appelles microcosmos?
Le film qui a été réalisé et qui était un chef-d'œuvre, je dirais, montrant la nature, la nature au sens large, et puis en particulier les insectes, toutes les petites particules de vie que l'on trouve dans notre écosystème. Alors le film commence à dater un peu parce que je crois qu'il a plus de 25 ans ce film. Il avait été reçu par la presse française avec enthousiasme, de même que un film qui fait presque suite, c'est Le Peuple migrateur,
Oui,
hein.
c'est ça. Ouais.
Donc c'est la référence, je dirais, la plus importante de ces dernières années concernant le documentaire
Animalier.
nature, ouais, voilà, nature animalier, hein. Autrement, les seuls documentaires que l'on pouvait voir sur la nature, c'était sur France 4. Hein. Donc petit format et puis plutôt court, puisque ce sont souvent des sujets qui couvrent une heure seulement, alors que là c'était quand même une grande fresque qui avait nécessité plusieurs années de préparation, de tournage, post-production, et le chef-d'œuvre que l'on a servi au public est là, était là. Mais
Et je
maintenant.
crois que pour rebondir sur ce que tu dis, Microcosmos, c'est pas un film que j'ai vu, mais j'en ai entendu parler. Il me semble que les ingénieurs du son, si je ne me trompe pas, ils habitent en Sologne. Et ils travaillent. Enfin, j'aimerais beaucoup les rencontrer parce que c'est vrai qu'ils font un travail au niveau du son qui a l'air très intéressant.
Et puis ils sont dans un espace qui s'y prête, hein, parce que la Sologne, quand on s'y attarde, c'est sûr que c'est un festival de découvertes pour tout ce qui touche à la nature, hein, la faune, la flore, même si c'est un
La
espace qui.
chasse.
Non, c'est un espace qui a été très transformé, pas. Justement, il fut un temps, il y a la chasse, mais surtout la pisciculture et la sylviculture, parce que c'était un endroit qui était essentiellement marécageux, qui était un foyer en fait de maladies, hein, avant que François Ier ne commence son assainissement et que les rois qui ont succédé ont continué. C'était un lieu insalubre, la Sologne, pendant des siècles, jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça devienne cette belle région naturelle que l'on a au sud de la Loire, entre le Loiret, le Loir-et-Cher et puis le Cher. Donc, sinon, Center Park, hein, aurait élu domicile ailleurs. Voilà. Et toi, tu rêverais peut-être de faire un film un jour comme Microcosmos, dans un autre domaine, hein, apparemment, comme beaucoup aujourd'hui, tu es soucieuse de tout ce qui touche à la nature, à sa préservation. Il y a peut-être d'autres sujets qui te tiennent à cœur, et que tu aimerais exposer en documentaire.
Oui, c'est vrai que. Enfin, après, ça peut faire un peu bateau de dire je m'intéresse à la nature, à la fin de mes études, j'ai réalisé un film qui s'appelle Piou Piou Piou. Et c'est un film sur les oiseaux. C'est un court-métrage documentaire de 16 minutes. Et c'est un film. Enfin, sur les oiseaux, pas tellement. C'est un film sur les observateurs d'oiseaux des bords de mer. Donc, c'est un film qui est tourné sur un lieu très précis dans le sud-Bretagne, à côté de Lorient. Et du coup, on s'est intéressé, enfin, je me suis intéressée dans ce film-là à aller rencontrer les personnes qui côtoyaient ces bords de mer, qui côtoyaient ces oiseaux des bords de mer, et à essayer de tisser une forme d'histoire, de relation entre ces observateurs et ces observés. Voilà, ça permet de. C'est un film qui a été très fort parce qu'il est tourné à côté de l'endroit où j'ai grandi. Et j'avais beaucoup envie de revenir sur ce territoire que j'apprécie beaucoup. Et sur cette relation au paysage, au territoire et aux oiseaux. Et c'était une expérience très, très forte que on a fait le tournage avec deux copines du master dans lequel j'étais, une au son, une à l'image, et après on a monté pendant 2 mois ensemble.
La
C'était une expérience.
post-production, que ce soit en fiction ou en documentaire, ça prend du temps.
Oui. Et après, il y a quelqu'un qui nous suivait à la réalisation, quelqu'un qui nous suivait au montage. Enfin, il y a des étudiants qui ont travaillé au mixage dessus, il y a un étalonneur qui a travaillé dessus. Enfin, même si on reste des équipes réduites, en fait, en comptant la post-production, ça reste des équipes conséquentes, quoi. Mais sinon, pour revenir sur le film en tant que tel, enfin, voilà, ça tisse une histoire d'une relation au vivant, enfin, de manière modeste. Et c'est un film qui est accessible sur Tank, la plateforme de documentaire de création en ce moment, à la mi-juillet, début juillet, il me semble. Et Tank, c'est accessible par l'abonnement à la médiathèque qui est gratuit d'Orléans. Sur le site internet, on peut retrouver des. Enfin, on a un accès. Voilà, si vous voulez aller voir Piu Piu Piu, c'est possible. Il est
D'accord.
également sur Mediapart, si vous avez des codes Mediapart pour un mois, donc peut-être encore 3 semaines jusqu'au 10 juin.
Ah, moi, je vais à la source, je demande à la réalisatrice, hein, directement, hein, je triche.
Mais en tout cas, je suis très contente que ce soit sur ces plateformes et c'est une grande chance que ça le soit en ce moment.
Et en espérant qu'il y en aura d'autres, hein, aussi, hein.
Et oui, voilà. Et sinon, je travaille en ce moment un peu. J'ai un peu de mal, du coup. J'ai levé le pied. Enfin, si un jour le pied a été baissé, mais je travaille sur un film sur les paysages nucléaires dans le nord de, enfin, dans la Manche, en Normandie, et sur la manière dont, enfin, je m'intéresse beaucoup en fait aux enjeux de territoire de manière générale et à la façon dont les gens vivent sur leur territoire. Donc, dans Piu Piu Piu, c'était la manière dont les gens vivaient avec cet environnement des oiseaux,
Avec la nature,
avec la
enfin, en
nature,
tout cas avec un
ouais.
espace naturel, là
Protégé. Et là,
c'est avec un
c'est.
espace artificiel.
Voilà, c'est un espace où la. Parce qu'en fait, la zone autour de Cherbourg, c'est un endroit qui est très nucléarisé, avec un centre de retraitement des déchets qui accueille une centaine de cœurs de réacteurs.
Oui, la Hague.
La Hague, exactement. Et la centrale
C'est
de
un des plus
Flamanville.
anciens d'ailleurs, puisque dans mes souvenirs d'école, puisque je suis aussi historien géographe de formation, hein, déjà à la toute fin des années 90, hein, c'était sur pas un PowerPoint, mais sur la carte géostratégique française, énergie, nature, et il y avait déjà la Hague. Donc.
Et c'est un endroit qui est, enfin, c'est le nord cotentin, c'est un endroit que j'aime beaucoup, enfin, qui est magnifique. Et donc voilà, sur un territoire très réduit, il y a plein de contradictions qui se lient aux enjeux d'environnement, enfin, d'électricité, d'énergie et de préservation. Et il y a un collectif en ce moment qui lutte pour essayer d'empêcher qu'il y ait des nouvelles piscines. Donc en fait, des piscines, c'est des bassins qui permettent de refroidir les cœurs de réacteurs qui viennent du monde entier, parce qu'en fait, le centre de retraitement de la Hague, c'est unique au monde. Enfin, il me semble que les Français sont quand même très isolés dans ce choix du retraitement. Et avant d'aller théoriquement dans l'est de la France, à Bure. Mais ça, c'est pas encore fait. Enfin, voilà. La filière nucléaire française est très compliquée. Il y a des gens qui essaient de se mobiliser en ce moment à la Hague pour pointer du doigt le problème des déchets là-bas. Et c'est ça qui m'intéresse en ce moment pour revenir sur.
On en dit beaucoup de choses, mais il s'agit de faire un tri dans tout ce qui est dit, parce que c'est un petit peu aussi le problème de notre époque, c'est que bien souvent, la multiplication des points de vue et j'allais dire presque leur enchevêtrement, ça constitue un amalgame et des fois démêler ce qui est le plus pertinent. Je n'allais pas dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, c'est un jugement de valeur qui n'a pas lieu d'être. Ce qui est pertinent, disons, échappe parfois souvent au public. Parce qu'il est tellement noyé dans les informations qu'on lui transmet, hein, que pour faire le tri, faire la part des choses, analyser l'ensemble, c'est compliqué. C'est là que les documentaristes interviennent.
Et oui.
Et t'es la seule à son soleil
Ah
où vous
non,
êtes. Non, je
non,
veux dire,
non.
à faire surtout, à être intéressé par le documentaire. Il y a peut-être d'autres qui sont plus intéressés par la fiction, l'animation, ou même tout simplement le reportage ou l'émission plateau, hein, comme nous on fait ici chez Zotelli. Hein, je parle un peu de ma crèmerie aussi. Hein. Il va m'en vouloir le grand, hein, qui nous a laissé le local pour enregistrer, hein, en disant « Quoi, tu parles pas de Zotelli? Non mais c'est quoi cette affaire ?» Non?
Non, il est question d'hôtel, pas de problème. Non, à Sans Soleil, oui, c'est du documentaire, c'est une association qui diffuse, qui crée et qui du documentaire de création. Il y a plusieurs auteurs, beaucoup plus confirmés que moi actuellement,
Alors j'ai
qui
vu que c'était
travaillent sur leurs
surtout
propres films.
un collectif de réalisateurs, essentiellement
Oui.
passionnés, évidemment, sans passion, hein, point de salut, je dirais. Si on fait les choses sans passion, qu'est-ce qu'on ferait au fond? Et vous êtes combien en tout?
Mais je ne saurais pas dire dans les membres en réunion d'équipe. En général, on est 6-8 à réfléchir au quotidien au fonctionnement de l'asso. Après, entre les gens qui sont au comité d'administration, les gens qui sont membres bénévoles, collectif de réalisateurs et les salariés également. Après, il y a le collectif de programmateurs. Enfin voilà, On est une bonne équipe soudée. C'est très agréable de travailler ensemble.
Donc association, mais aussi boîte de prod.
Bah alors, donc pour revenir sur Sans Soleil, il y a trois volets principaux. Il y a la programmation dans lequel je suis le plus investi, avec le collectif de programmateurs, avec qui on conçoit la programmation au quotidien pour l'année entière. Donc là, on a des gros projets, enfin, on a une grosse soirée qui est prévue le 23 juin à Arthenay. C'est une projection hors les murs et plein air. J'ai très hâte de voir ça commencer à se concrétiser. Sinon, on est en train de travailler en ce moment sur la programmation du second semestre. Et au niveau des dates, juste en juin, on a le 6 juin en C11 au 108. Après, on a le 23 juin, comme je disais, à Arthenay, et le 27 juin, en début de soirée, 18h ou 18h30, au Café Projet, 18h30. Et après, 20h en séance. Voilà, c'est une soirée.
Et la création de contenu, comment ça se passe?
Et comment la création de contenu?
C'est-à-dire, est-ce
La
qu'il y a
communication?
la communication, puis aussi une production sans soleil
Voilà, donc,
en.
vous voyez. Donc, ça, c'était pour ce qui était la programmation. Après, il y a l'éducation à l'image. Donc, c'est ma collègue qui s'occupe d'organiser des ateliers dans différentes structures scolaires, médico-sociales, voilà, sur le territoire orléanais, du département, même du Loiret. Donc, ça,
Ce
c'est.
que fait aussi Samuel Pastel, justement, Samy, pour les intimes.
Lui, c'est plus l'éducation aux médias davantage?
C'est ça aussi, oui,
Ouais,
c'est ça.
ouais. Bah, Karine, enfin, on fait plus de l'éducation à l'image. Enfin, bon, c'est très très proche, hein, mais voilà, c'est ça. Mais on fait pas tellement d'éducation aux médias, nous. Et sinon, pour ce qui est de la production, hein, comme tu me le demandes, à Sans Soleil, il y a le collectif de réalisateurs a décidé de se former davantage en société récemment, en
Parce
société
que là,
coopérative.
le principe de l'association, ça a un petit peu ses limites, malheureusement.
Oui, après c'est un sujet, enfin ça a pas ses limites et justement on est en train d'essayer pour la production, donc il y a une créa y a la, on va, je vais, je parle davantage de création pour ce qui est de Sans Soleil. Donc la production, elle se professionnalise en société coopérative et parce qu'en fait, quand il est question de demander des aides, c'est plus simple d'être dans un schéma de société quand on est en dialogue avec le CNC. Et c'est pour ça que la société se crée en ce moment, s'est créée. C'est tout neuf. Et sinon, pour la production associative, Sans Soleil s'oriente davantage vers l'expérimental et vers des formes davantage hybrides. Mais la création reste à Sans Soleil. Enfin, il reste de la création à Sans Soleil et c'est quelque chose vers lequel les auteurs souhaitent s'impliquer.
D'accord, très bien. Hein, c'est, allez, souhaitons voir le résultat un petit peu de cette évolution. Hein, dans les, j'espère pas les années à venir, les mois à venir. Hein, hein, c'est une question de temps toujours, mais on espère que ça arrive le plus tôt possible. Hein. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour toutes ces précisions. Ça faire découvrir ton univers. Hein, et puis bah. Je vous remercie de votre fidélité et de nous avoir écoutés. Et puis bah, à une prochaine fois pour un autre numéro de La Lanterne Magique.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Bah, de rien, de rien. Au revoir.
Au revoir.
d'Amstel à l'Amstel.